Toujours une joie d'être avec Jean-Luc, avec mes frères et sœurs d'autres églises. C'est toujours une joie d'être ensemble réunis, corps du Christ, parce que le corps du Christ n'a pas nos limites structurelles, institutionnelles et humaines. Le corps du Christ, c'est la communion de tous ceux et celles qui suivent Jésus, qui ont été sauvés par lui et qui désirent encore témoigner de lui aujourd'hui. Et j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Dimanche dernier, je prêchais d'une manière un peu étonnante. Je prêchais dans un champ dehors, en plein air, sous la pluie. C'était intéressant. Ouais, c'était pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez un de mes amis, il s'appelle Richard Andrzejewski, il est médecin à la Bège, il a une ferme près du Mont Deka. Et puis, chaque année, il invite, au cours d'une célébration absolument ouverte, tous ceux qu'il connaît. Catholiques, protestants, orthodoxes, pas catholiques, pas protestants, pas chrétiens, peu importe. Ses voisins fermiers, tout le monde. Puis il fait une célébration où il y a la Sainte Cène, puis après on a un grand temps d'agape ensemble. Puis il m'avait demandé de prêcher sur le thème du pardon. Et j'étais habité par ce thème jusqu'à ce matin finalement. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux partager ce matin à l'église de Wavrin, à la communauté qui est là? Qu'est-ce que toi sur ton cœur à partager? Parce que c'est pas moi qui vais parler, hein. J'espère être qu'un outil entre les mains du Seigneur. Et comme je fais chaque fois, Je regarde le texte du jour. Vous savez, je fais partie d'une église qui s'appelle l'église réformée, mais je fais aussi partie d'une église qui s'appelle l'église évangélique du Christ à Lille. Je suis sur deux communautés en même temps, une église évangélique et une église protestante réformée. Et on a l'habitude, j'ai toujours eu l'habitude dès qu'on m'invite à prêcher, de pas prendre un texte de moi-même, mais de me soumettre au texte qui est officiellement demandé pour le dimanche. Comme ça, j'ai l'impression que je manipule pas la prédication. Vous voyez, je la reçois. Et j'ai relu le texte de ce jour et je me suis aperçu qu'il y avait un lien avec ce que j'avais dit dimanche dernier. Et le Seigneur m'a demandé de faire un mix des deux. Alors on va essayer, dans la grâce de Dieu. Alors, le texte, je vais d'abord vous lire le premier texte. Il est court, il est dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Un texte magnifique. Moi j'aime beaucoup Marc. Alors je vais peut-être m'éloigner du micro, est-ce que ça gêne si je m'éloigne du micro un peu de temps en temps? Vous m'entendez assez, tu enregistres? Alors donc je vais rester près du micro. Non, je vais rester près du micro, c'est très bien. Donc, j'aime beaucoup l'évangile de Marc, parce que Marc, c'est l'évangéliste clair, net et précis. Marc, c'est tac, 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 tac. Jésus vient, Satan est dénoncé, les captifs sont libérés, les gens sont guéris, il y a des ressuscités, amen, tout va bien. Ça, c'est Marc. Et Marc, c'est l'évangile le plus court, mais d'une radicalité, c'est vraiment très net, quoi. Il n'y a pas beaucoup de discussions dans Marc. C'est très clair. Et Marc, justement, il nous donne ce récit. Donc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Oh, un récit, je dirais, bien connu, mais qui est magnifique. Et ce que j'aime dans Marc, c'est qu'il est court. Donc Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et un autre texte de quelqu'un un peu moins, peut-être un peu plus compliqué que Marc, qui s'appelle Paul. Je ne sais pas si vous le connaissez. Paul, il prend un peu plus de temps pour expliquer les choses. Il y a même l'apôtre Pierre qui dit, « Paul, c'est bien compliqué, mais il faut quand même le lire. Hein, faut quand même le lire. » Et Paul, il dit dans l'épître aux Corinthiens, donc dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens 5, donc 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Alors je vais lire à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alors, frères et sœurs, ces deux textes, le Seigneur m'a mis à cœur de les mêler, tout d'abord en nous posant une question toute simple. Une question qu'à un moment, Paul pose à la communauté à laquelle il écrit, il leur dit, « Frères et sœurs, là-dessus, je n'ai rien à vous dire. Vous savez bien en quel temps nous sommes. » En quel temps sommes-nous, frères et sœurs? Alors, il y a deux manières de répondre. J'ai noté ici sur ma feuille, Wavrin, le 21 juin 2009. En quel temps sommes-nous? Le 21 juin 2009. Et ça, c'est un temps réel. Nous sommes le 21 juin 2009 dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'univers. Nous sommes le 21 juin 2009. C'est un temps chronologique, c'est un temps du calendrier, c'est un temps évident que tout le monde connaît. Et ce temps-là, finalement, c'est pas un temps anodin non plus, parce que le 21 juin, c'est quel jour pour nous aujourd'hui particulier? C'est le changement de saison. Nous passons du printemps à l'été. C'est un changement de saison. Vous allez voir pourquoi c'est important que je vous dise ça. Et puis, quand Paul dit ça à la communauté à laquelle il écrit la lettre, vous savez bien en quel temps nous sommes. Il n'attend pas qu'il réponde, nous sommes en l'an 3 de tel empereur, telle date. Non. En quel temps sommes-nous pour Dieu? Et là, la Bible, je ne veux pas être savant, elle utilise deux mots, le mot chronos et le mot kairos. Vous inquiétez pas, oubliez ça. Mais c'est important pour ceux qui travaillent la Bible. Le mot chronos, ça a donné chronomètre. C'est le temps, vous savez, du calendrier, le temps qui s'écoule heure par heure. C'est le temps qu'on mesure. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, c'est un temps du calendrier, c'est un temps chronométré. Vous voyez, un temps chronologique. Et puis, il y a le temps kairos. Ça, c'est autre chose. C'est le temps de la souveraine intervention de Dieu dans l'histoire au temps que lui fixe. Quand Dieu appelle Moïse pour délivrer son peuple, il y a une date chronologique. Mais c'est une date où Dieu intervient. C'est un kairos. Et personne d'autre que lui ne connaît ce temps, ne connaît ses jours et ses heures de son intervention. Et c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, décide d'intervenir. Quand Jésus naît à Bethléem, c'est un kairos. Quand Jésus envoie l'Esprit Saint sur ses disciples à la Pentecôte, c'est un kairos. C'est un temps souverain de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Où là, il se passe quelque chose et l'histoire bascule. Parce que Dieu y intervient. Et quand Paul dit « En quel temps sommes-nous ?» C'est ça qu'il veut dire. Frères et sœurs, vous n'ignorez pas en quel temps nous sommes. En quel temps sommes-nous à l'horloge de Dieu ? En quel temps sommes-nous d'après ce que Dieu veut et est en train de faire? Et le temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs, c'est un temps que je ne cesserai de répéter parce que j'en suis convaincu, on l'a chanté, c'est le temps de la préparation de l'épouse. C'est un temps particulier que Dieu a décidé de toute éternité. C'est le temps où il prépare son peuple. Un peuple de toute race, de toute nation, de toute culture, de toute origine, à épouser son fils. C'est ça. Nous sommes dans le temps, non pas de l'Église primitive, nous sommes dans le temps de l'Église finitive. Celle qui va attendre résolument Jésus en ayant la conviction que son avenir n'est pas dans ce monde ici, mais que son avenir, c'est Dieu qui l'a fixé. Et c'est un temps où Jésus reviendra au temps fixé par Dieu. Alors pourquoi je voulais vous dire ça? Parce que pour arriver à ce temps-là, Dieu a un projet, à un itinéraire dans lequel il nous fait rentrer progressivement. Et aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, si c'est le 21 juin, c'est peut-être pas un hasard que tu me demandes de prêcher un 21 juin, c'est un changement de saison. Et dans toute l'équipe d'Embrasse nos cœurs, depuis le temps qu'on prie ensemble, qu'on partage ensemble, on a cessé de recevoir du Seigneur, c'est le temps du changement de saison. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela? Et j'aimerais avec vous creuser 4 points. C'est quoi un changement de saison? Eh bien, un changement de saison, c'est un temps particulier où Dieu intervient pour nous faire passer, comme dit Marc, de l'autre bord. Pour nous faire aller vers un endroit que peut-être on n'imagine pas du tout, pour lequel il nous a préparés. Et pour y aller, il y a une traversée à faire, qui n'est pas toujours facile, mais il est avec nous. Et ce qui nous attend va nous surprendre et va nous révéler profondément qui est Dieu, qui est Jésus et qu'est-ce que le royaume. C'est ça une nouvelle saison. C'est entrer dans un temps nouveau voulu par Dieu, un temps de croissance spirituelle, un temps de maturité spirituelle, un temps de croissance dans le royaume de Dieu, tel que Dieu le désire, quand il le désire, où il le désire, comme il le désire. C'est un temps de la souveraineté de Dieu. Et j'aimerais alors partager avec vous 4 points. L'évangile de Marc, il est très court, vous l'avez entendu, c'est très court comme évangile. C'est typique de ce qu'est un changement de saison. Et il y a 4 questions qu'on peut se poser personnellement et communautairement. Première question, quand entre-t-on dans un changement de saison? Quand le sait-on? Deuxième question, avec quoi y entrons-nous? Troisième question, avec qui y entrons-nous? Quatrième question, pourquoi y entrons-nous? Vous savez, je suis prof, hein, donc j'ai toujours des plans assez clairs dans ce que je fais. S'ils sont clairs dans ma tête, ils sont clairs dans mon cœur, et j'espère que ce sera clair pour vous de la part du Seigneur. Alors, quand y entrons-nous? L'évangile de Marc est merveilleux. Tout commence comment? C'est un soir, c'est Jésus qui dit « Allons !» Qui prend l'initiative? Jésus. Et il donne un ordre, c'est un impératif. « Allons de l'autre bord !» Et vous savez, j'ai appris ça de mes frères catholiques, Dieu donne ce qu'il ordonne. Je ne sais plus quel saint catholique a dit ça, c'est dans la tradition, mais Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand Jésus donne un ordre, il donne en même temps la capacité d'y répondre. Parce que c'est un Père, notre Dieu, et il donne ce qu'il ordonne. Alors, Jésus dit « Allons !» Tiens, tiens. Autrement dit, c'est Jésus qui prend l'initiative, il donne un ordre, et c'est un temps particulier, c'est un temps kairos, c'est pas un temps chronos, c'est un temps particulier. Dieu, au travers de Jésus, veut faire aller les disciples que Jésus a choisis de l'autre bord. Et je me dis que, bien souvent, dans nos vies personnelles, est-ce que nous écoutons, est-ce que nous entendons les ordres de Dieu? Est-ce que c'est vraiment sur les ordres de Jésus que nous nous mettons en route pour faire quelque chose? Est-ce que c'est notre bonne volonté humaine qui nous guide? Est-ce que ce sont nos beaux sentiments? Est-ce que c'est uniquement notre compréhension de ce que nous vivons qui nous pousse à aller de l'avant dans telle ou telle direction? Ici, les disciples n'y vont que sur l'ordre de Jésus. Et ça me frappe parce que qu'est-ce qu'ils vivaient avant? C'est impressionnant. Ils sont en plein dans le début du ministère de Jésus. Et Jésus, avant, il n'a pas arrêté de faire quoi? De prêcher, de guérir des malades, de ressusciter des morts, enfin bref, de manifester des choses qu'on n'avait pas vues en Israël depuis, mais des siècles. Il faut peut-être se rappeler Élie, éventuellement, pour se souvenir de tels miracles. Et les disciples voient ça. Et je pense que, à votre avis, sont-ils enthousiastes ou pas? Moi, j'avoue que si j'avais été du temps de Jésus parmi les 12, punaise! J'aurais été... Waouh! J'aurais qu'une envie, quoi. Je serais allé partout avec lui. Rendez-vous compte. Il me prend dans sa bande. Il prêche. Je vois des gens guéris. Je vois des gens rassasiés. Je comprends la parole de Dieu. Mais c'est incroyable. Et en plus, il m'a pris avec lui. Le feu, quoi. Je vais aller partout, comme Pierre. J'irai partout avec toi, Seigneur. Le feu. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? Là, Jésus, finalement, leur dit un ordre, allons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils obéissent. Ben, ils sont confiants. Pourquoi? Tout ce qu'ils viennent de voir, c'est extraordinaire, c'est évident. Ils vivent un temps particulier, quand même. Et ils obéissent. Ils obéissent à cet ordre. Ils obéissent à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont aller dans une barque. Parce que ce sont des pêcheurs, et Jésus leur demande d'aller de l'autre bord. Alors ils comprennent d'aller de l'autre bord, c'est de l'autre bord du lac. Donc il faut aller de l'autre bord du lac, c'est clair, on y va en bateau. Et c'est là qu'intervient donc, vous voyez, premier point, quand entrons-nous dans un temps de nouvelle saison, nous y rentrons sur l'ordre express de Dieu. Ce n'est pas nous qui connaissons les temps et les moments. Et ma question est la suivante. Pour nous tous aujourd'hui, avez-vous entendu cet ordre de Dieu? Êtes-vous à l'écoute de ceux et celles qui sont les bouches du Seigneur pour nous dire nous sommes dans un nouveau temps dans lequel il faut rentrer? Et moi, je suis frappé de voir que partout où je vais aujourd'hui, j'entends ça. Nouvelle saison pour l'Église. Nouvelle saison pour l'Église. Et j'aimerais juste vous partager, et vous allez voir pourquoi, une des caractéristiques de cette nouvelle saison, c'est qu'elle va nous surprendre. Et que nos églises n'y sont pas prêtes. Nos structures n'y sont pas prêtes. Et on le voit bien parce qu'elles craquent de partout. Et je dis ça pour mes frères catholiques, je dis vraiment fraternellement parce que je me sens impliqué avec vous, mais pas de l'extérieur. Les églises les plus structurées craquent, et c'est pas étonnant. Nos structures ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Elles sont pas adaptées. Et je parle aussi pour les protestants et les réformés. Nos théologies sont pas adaptées au royaume de Dieu. Elles n'y rentreront pas. Jésus n'est pas venu créer des structures. Il est venu élever une communauté qui rend gloire à son nom et qui prépare sa venue. Et ça, il est en train de nous rappeler. Et nous, on s'est un petit peu encroutés dans nos structures d'église respectives, croyant que c'était cela notre héritage. Ce n'est pas notre héritage. Ce n'est qu'un espace dans lequel nous sommes, mais ce n'est pas cela que nous emporterons dans le royaume de Dieu. Et ce qui va nous rassembler, c'est cela. C'est ce que nous allons quitter ensemble qui va nous rassembler. Je ne dis pas ça pour créer une nouvelle église, vous comprenez bien. Moi, je n'ai pas quitté mon église et j'y reste fidèle. Croyez-moi, ce n'est pas ça la question. La question est, dans cette nouvelle saison, qu'est-ce que le Seigneur va nous demander de quitter? C'est aussi une question. On pourra la découvrir qu'ensemble. Et pas en rivalité les uns avec les autres, mais ensemble, à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va devoir améliorer ensemble? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre sur le côté ensemble comme étant non, ce qui n'est plus prioritaire? Entendons la voix du Seigneur qui nous dit « Allons de l'autre bord ». Et ça, pour moi, c'est vraiment important de vous le dire avec certitude et avec conviction. Nous ne pourrons nous mettre en route que si nous entendons cet ordre du Seigneur. Et cet ordre du Seigneur, je crois et je confesse aujourd'hui que beaucoup l'entendent. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Deuxième chose, avec quoi y entrons-nous? Là, j'ai déjà donné un élément de réponse. Sur un bateau, on prend que l'essentiel. Sur un bateau, on prend que l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Alors là, je me suis dit, bon, je viens faire une prédication en temps limité. Je peux quand même pas, Seigneur, développer ça pendant... Il y a de quoi faire plus qu'un séminaire, il y a de quoi prêcher là-dessus pendant des heures. Et en même temps, on peut être comme Marc, on peut être très condensé. Alors, avec quoi entrons-nous dans ce temps? Autrement dit, avec quel dépôt fondamental montons-nous dans le bateau? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à conserver? Qu'est-ce qui n'est pas accessoire? Tout le reste, on n'en a pas besoin. Parce que si on charge trop le bateau, il se renverse. Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est essentiel? Quel est le dépôt que Dieu nous demande absolument d'emporter? Et c'est là que je me suis rappelé de ce que j'ai prêché dimanche dernier. Et le texte que je viens de lire dans Corinthiens nous le donne. Ce que Jésus veut que nous embarquions, je le crois, c'est le dépôt qu'il nous a donné d'être ambassadeurs de réconciliation. Le ministère de l'Église, c'est celui-là. Et j'aimerais vous dire avec force, l'Église n'est pas témoin du péché originel qui met les gens sous la culpabilité. L'Église, elle est témoin du pardon originel qui, en Jésus-Christ, libère tous les captifs de la culpabilité. Ce que nous devons emmener avec nous, c'est la certitude du pardon originel et non pas du péché originel. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spécificité chrétienne, elle est là. Je vous pose une question. Vous savez ce que c'est que le 11 septembre? Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Moi, j'étais dans la rue à ce moment-là. Je rentrais chez moi et je vois un jeune qui court sonner à son voisin, un de mes voisins, et qui lui dit « Écoute, regarde la télé, c'est dingue, ils sont en train de tout casser !» Puis moi, j'ouvre la télé et je suis resté abasourdi. Je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'accélère là? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Abasourdi. Et puis, il y a eu une réaction. Il y a eu un président américain qui s'appelle George Bush. Et c'est le président américain chrétien. Et chrétien, je peux vous le dire parce que je connais des amis américains, chrétien converti, convaincu, un homme qui a vraiment vécu une expérience avec le Seigneur. C'est pas du tout quelqu'un qui était spirituellement à côté de ses pompes, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un contexte. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu une rencontre avec Jésus. Et alors, il a dit une chose après le 11 septembre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a évidemment dit tout ce qu'aurait dit n'importe quel homme dans cette situation. On va se venger. Et moi, je me suis dit à ce moment-là avec Richard, mon ami, que serait devenu le monde si George W. Bush avait dit « Nous pardonnons parce que nous sommes chrétiens. » Nous pardonnons. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons à nos ennemis. Nous aimons nos ennemis parce que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que ça aurait inauguré dans le monde, cette parole-là? En tant que président des États-Unis, en tant que président d'un peuple qui se dit chrétien, voilà le dépôt que Dieu nous a laissé. Ceux qui ont commis ces attentats, nous leur pardonnons. Et l'Amérique demande pardon de ce qui a pu conduire à ce genre de situation. Croyez-vous que ça aurait été un message différent? Imaginez-vous les conséquences que ça aurait pu avoir par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Voilà ce que Jésus attend de nous dans cette nouvelle saison. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un chrétien qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il avait emporté dans son bateau? Et je ne le juge pas, parce que je me dis dans sa situation, qu'aurais-je fait? Frères et sœurs, je ne juge pas George W. Bush, je sais par où il est passé. Un homme qui vivait dans l'alcool, etc., qui était guéri par le Seigneur, il avait une conversion authentique. Mais il y a des responsabilités humaines qui nous emprisonnent. Il y a des structures qui nous conditionnent. Et puis je pensais à un autre personnage des États-Unis qui, quelques années auparavant, a dit « I have a dream !» « J'ai fait un rêve !» Il a dit ça depuis Washington. Aux États-Unis, il a dit « J'ai fait le rêve qu'à une même table, les blancs et les noirs mangeront enfin ensemble. » Et lui, il en est mort. C'était Martin Luther King. Et on voit les fruits aujourd'hui de ce rêve qu'il a fait. Quel dépôt emportons-nous avec nous sur le chemin où le Seigneur nous demande d'aller? Et je crois que le monde a soif de cette proclamation du pardon originel qui fait que tout homme, toute femme, quelle que soit la situation dans laquelle il est, quel que soit l'écrasement qu'il a subi, quelles que soient les fautes qu'il a commis, quelles que soient les fautes qu'il a subies contre lui, il a le droit à être relevé. Le premier droit de l'homme, c'est le salut en Jésus-Christ. Et l'Église n'a rien d'autre à défendre que ça. Laissons les droits de l'homme à César. Rendons à César ce qui est à César. Rendons l'humanisme aux humanistes. Le premier droit de l'homme, c'est de connaître Jésus-Christ. Et le dépôt, c'est Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le dépôt, c'est Jésus sur la croix. Tout est accompli. Le dépôt, c'est Paul qui le dit. Comme Christ nous a pardonné, pardonnez-vous. C'est cela le dépôt. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. De quoi le monde a-t-il besoin? Des ambassadeurs de la réconciliation. Mais cela n'est possible qu'à une seule condition. C'est que nous savons que le pardon que nous allons donner au nom de Jésus, nous l'avons déjà reçu parce qu'il y a un pardon qui précède tout ce que nous avons à donner. Et le pardon qui précède tout ce que nous avons à donner, c'est le pardon du Golgotha. Le pasteur qui a fondé mon église, un jour, on lui demandait, dans un débat interconfessionnel, il y avait des protestants, il y avait des pentecôtistes, il y avait de tout. Question fondamentale, quand as-tu été baptisé? Autrement dit, à quel âge? Bébé? Pas bébé? 30 ans? 40 ans? Avec quel volume d'eau? Vous voyez, des questions vraiment fondamentales qui passionnent le monde. Vous savez ce qu'il a répondu? J'ai été baptisé en l'an 33. À la croix. Parce que là, Dieu m'a réconcilié avec lui. Je suis mort en Christ et je ressusciterai avec lui. C'est ça la réponse. Il y a un temps où Dieu a signé sur cette terre la réconciliation avec tous les hommes. L'Église est témoin de cela. C'est le dépôt que nous emportons. Et ceux et celles qui nous entourent là, c'est de ça dont ils ont besoin. De recevoir la réconciliation et le pardon, pas le reste. Enfin, vous savez, tous nos trucs là. Boulala. Le bateau, il va couler. On n'en a pas besoin. Et il y a un pape qui l'a compris. Et ce pape-là, croyez-moi, c'est un des hommes que je respecte le plus. C'est un Polonais. Jean-Paul II. C'est un pape dont la vie m'a totalement bouleversé. J'ai vu un film qui romance sa vie, et j'ai compris en regardant ce film qui s'appelle Carole, l'homme qui devint pape. Je recommande à tous les non-catholiques de regarder ce film. Même catholiques aussi d'ailleurs. L'acteur qui le joue, c'est un Polonais. On sent qu'il est habité par son rôle. Enfin, c'est un film, moi, qui me parle autant, si vous voulez, qu'un récit de Vida, la série pentecôtiste, là, sur les témoignages. Ouais, c'est exactement ça. On voit pourquoi Dieu a choisi cet homme pour devenir pape. Ce que Dieu a construit dans sa vie pour qu'il devienne l'homme qu'il est devenu. Il a connu le nazisme. Ses amis d'enfance étaient juifs. Ils avaient tous vu tuer les uns après les autres déportés. Il n'était pas encore prêtre à l'époque. L'ami qui le mène à la prêtrise est assassiné par les nazis parce qu'il confessait les Allemands qui se repentaient de leurs fautes. Et lorsqu'il devient prêtre en cachette, c'est les communistes qui débarquent et la situation est pire. Il est espionné. La moitié du clergé est emprisonné. Un tiers du clergé meurt. La Pologne était un peuple martyr. Et il grandit dans la foi sans jamais une parole de jugement sur ses ennemis. Et un jour, il y a un commissaire politique qui vient le voir et qui lui lance à la figure « Mais regardez ce que l'Église a fait, regardez ce que vous avez fait au Pau-Rouge. » Il dit « Oui, de cela, nous aurons à demander pardon. » C'est le pape qui n'a cessé de demander pardon. Et à Vatican II, il le disait « Nous devons prier pour la guérison de la mémoire de ce que l'Église a commis dans le passé. Et le seul chemin, c'est la demande de pardon. » Ça, c'est Jean-Paul II. Il a demandé pardon plus de 300 fois, je crois plus de 300 fois, partout où il se rendait, là où l'Église catholique avait commis un acte suffisamment répréhensible aux yeux de l'histoire pour que des gens lui en veulent, il demandait pardon. Il n'a cessé de demander pardon. Et le plus grand pardon pour moi qu'il a vécu, il est allé au mur des lamentations. Vieillard tremblant, parkinsonien, faiblesse de l'Église qui avait perdu son orgueil. Et là, il a demandé pardon à Dieu pour toutes les horreurs que l'Église a laissé faire. Et croyez-moi, ça a ouvert des portes prophétiques dont on ne soupçonne pas encore la portée aujourd'hui. Et ce jour-là, moi, j'étais là avec ma femme, on regardait sur Internet ce qui se passait à Jérusalem. Ma femme et moi, on en pleurait. Et avec un ami pasteur, on s'est dit, là, le pape a vraiment été le vicaire de tous les chrétiens. Parce que j'étais avec lui là-bas. Il demandait pardon pour quelque chose qui allait réconcilier fondamentalement le peuple de Dieu, juif et chrétien. Un homme que Dieu a choisi pour demander pardon. Et moi, c'est le dépôt que j'ai reçu de Jean-Paul II, entre autres. Il n'a cessé de dire cela. Il a ouvert un chemin incroyable. C'est le dépôt qu'il avait reçu au travers des horreurs qu'il a vécues. Ne répondre jamais au mal que par l'amour. C'est incroyable quand même. Et voilà, le dépôt qu'il a pris sur le bateau, qui qui l'a emmené jusqu'au Vatican, et croyez-moi qu'on voit bien dans sa vie, c'est pas du tout ce qu'il pensait et ce qu'il espérait. Pas du tout. On est venu le chercher. Et c'est devenu cet homme tout à fait étonnant, parce que ça a été un pape, je dirais, même pour les protestants, il nous a un peu décoiffé quand même. Hein. J'avoue que il était assez étonnant. Quel dépôt a-t-il emporté sur la barque quand Dieu lui a dit « Allez dans l'autre bord, le pardon ». La réconciliation. Vous savez ce qu'il a dit Jean-Paul II ? Je suis prêt, je ne sais pas si vous savez mes frères catholiques, il a dit officiellement « Je suis prêt à remettre sur la table la manière dont je gère le ministère pastoral du pape ». Il a dit aux protestants « Rediscutons de ça. Rediscutons de ça. » Jusqu'où était-il prêt à aller dans l'esprit pour la réconciliation entre nous ? C'est ça aussi. Hein ? Dans le bon sens du terme, je dis ça. Je parle de lui parce que bon, c'est quelqu'un que j'aime profondément et il m'a beaucoup bouleversé. Alors, frères et sœurs, je reviens maintenant à mon texte. Avec quoi y entrons-nous ? Pour que le bateau ne se renverse pas, pour aller de l'autre bord, il nous faut avancer léger et prendre l'essentiel. Vous êtes apôtre de réconciliation. Apôtre, c'est envoyé. Pour toutes les générations, pour tous les âges, pour tous ceux et celles qui vous entourent. Vous êtes apôtre de cette merveilleuse bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, tu es libre des conséquences de tes fautes. Tu es libre de tes captivités parce que Jésus t'a libéré. Et il t'a réconcilié avec Dieu. Alors ta vie d'homme et de femme est de nouveau possible. Devant Dieu, en liberté. C'est de cela dont le monde a besoin, frères et sœurs, et pas d'autre chose. C'était mon deuxième point. Avec quoi y entrons-nous ? Maintenant, avec qui y entrons-nous ? Là, moi, je vous dis autre chose. Je ne peux pas y rentrer tout seul dans la barque. Jean-Luc, j'ai besoin de toi. Mon frère, j'ai besoin de toi. L'OVD, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous tous. Je ne peux pas y rentrer seul dans la barque. Parce que d'abord, je serais incapable de le faire bouger tout seul. Et ce que Jésus appelle, c'est un peuple. Je veux y entrer avec vous. Mais moi, je veux y entrer avec vous. Je ne veux pas être tout seul. Autrement dit, avec qui vais-je y rentrer dans cette barque ? Avec mes frères et mes sœurs. Tous ceux qui ont entendu cet ordre et qui y entreront. Et je vais être surpris, parce que je ne m'attends pas forcément toujours. À... Disons que, a priori, si j'écoutais que moi, je ferais peut-être une sélection. Seigneur, avec lui, d'accord, avec celui-là, bon, écoute, est-ce qu'on ne peut pas régler ça avant de rentrer sur le bateau ? Ou bien alors, complètement surpris, comment eux aussi tu les as invités ? Même les orthodoxes ? Même les juifs ? Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là ? Et lui aussi, là, lui qui est même pas chrétien, qui est même pas baptisé, il a répondu à ton appel et tu le mets aussi dans la barque parce qu'il est conscient, comme le bon larron, que ce que tu as fait pour lui est extraordinaire. Il sait que ça. Il a fait aucune étude de théologie. Il n'a pas de certificat de baptême. Il n'est jamais allé au culte à la messe. Mais il sait que tu l'aimes et que tu l'as sauvé. Vous comprenez, frères et sœurs ? Avec qui allons-nous entrer ? Puis deuxièmement, avec qui entrons-nous ? Il est marqué dans Marc, ils l'emmenèrent. Ben, ils prennent Jésus avec eux. Ça vous paraît anodin ? Pas du tout. Souvent l'Église est montée dans la barque, en oubliant le Seigneur sur la berge. Et ça a été une catastrophe. Parce qu'il y a eu la tempête, et rien ne s'est apaisé, et elle a coulé. Vous connaissez le récit dans les frères Karamazov de Dostoïevski, un récit bouleversant. C'est une fiction. Vous connaissez Torquemada ? Ça vous dit rien, Torquemada ? Ça a été le plus grand des inquisiteurs en Espagne, au moment où on débrûlait peut-être 100 ou 200 personnes par semaine en moyenne, tous les hérétiques. Et Dostoïevski situe son récit à ce moment-là, un récit étonnant, je vous conseille de le lire. Il dit, voilà, toute la semaine, les bûchers avaient été offensifs, tout le monde était dans l'effervescence, Torquemada régnait en maître sur la ville, qui était en Espagne, et sur l'église. Et puis, d'un seul coup, la ville frémit parce qu'un homme arrive. Puis cet homme est étonnant parce que il n'est pas tout à fait comme nous. Et puis, le bouche à oreille se fait. Ça fait une semaine qu'il est dans la ville. Et depuis une semaine, il y a des guérisons. Depuis une semaine, il y a des gens qui vont mieux. Depuis une semaine, il se passe des choses incroyables. Et peu à peu, le bruit se court. Et si c'était lui ? Jésus. Et effectivement, c'est lui. Et Jésus arrive alors, au bout d'une semaine, il arrive dans le palais du grand inquisiteur. Et Torquemada alors descend pour le voir et il le met en prison. Il lui dit, pourquoi es-tu venu nous déranger ? On allait enfin établir l'Église. On allait enfin expurger l'Église de toutes ses impuretés. Et tu viens nous embêter avec tes guérisons, etc., alors qu'on allait réussir. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous faire. Et pour toute réponse, Jésus embrasse Torquemada et s'en va. C'est un récit fictif, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez le sens ? Est-ce que je m'embarque ? Est-ce que je prends Jésus avec moi sur le bateau ? Et un récit plus proche. Vous connaissez Lorraine Cunningham ? Pour ceux qui connaissent, c'est le fondateur de Jeunesse en Mission. Et Jeunesse en Mission a eu beaucoup de ministères différents, on va dire, hein, au niveau de leur action. Et un ministère que vous connaissez sans doute, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'était le ministère des bateaux qui apportait la guérison, les Mercy Ships. Avec un, je crois qu'il y a un bateau qui était appelé le Bon Samaritain. C'est un grand bateau blanc, un bateau hôpital. Et ils allaient partout dans le monde entier, finalement, avec des chirurgiens, des médecins, pour guérir. Hein, vous voyez, bon, c'est tous des chrétiens. Et puis en même temps, ils faisaient de l'évangélisation, mais vraiment dans le but d'aider les gens. Hein, c'était pas du racolage. Et en fin de compte, Lorraine Cunningham, oui, parce qu'il y a des moments où notre évangélisation, ça ressemble plus à du racolage qu'autre chose. Et Lorraine Cunningham, oui, parce qu'elle n'est pas gratuite. Est-ce que nous évangélisons pour la croissance de notre Église ou est-ce que nous évangélisons pour le bien de ceux auxquels nous parlons ? Alors, peu importe où ils vont après. L'essentiel, c'est que le salut soit annoncé. L'évangélisation, ce n'est pas du racolage. Et donc, et croyez-moi, les gens, ils sont sensibles aujourd'hui. Hein. Ils ont le nez. Hein. Quand on leur vend quelque chose, ils le sentent bien. Où est-ce qu'on signe, vous voyez ? Ça, ils le sentent bien. Alors, je reviens à ce que je disais. Lorraine Cunningham, il reçoit la vision d'un grand bateau blanc. Ça nous rappelle quelque chose d'un grand bateau blanc qui va porter la guérison aux nations. Tout de suite, comme c'est un homme entreprenant, il partage ça avec ses frères et ses sœurs de l'équipe de Jeunesse en Mission. Ils se disent, ben c'est clair, le Seigneur va nous donner des bateaux pour aller porter la guérison des nations, aux nations. Enfin, je résume. C'est dans un livre qui s'appelle « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Et donc, comme par hasard, dans les jours qui suivent, ils reçoivent ce qu'il faut pour acheter un grand bateau. Bon, ce n'était pas 10 euros, hein, c'était... Bon. Et il y avait justement un grand bateau qui était en vente, qui correspondait tout à fait à ce qu'il fallait faire, simplement en changeant un petit peu l'arrangement intérieur. Mais il y avait des architectes avec eux, il y avait tout ce qu'il fallait. Oh, du coup, ils se lancent à fond dans le projet. Et c'est parti, et l'argent arrive, et on construit le bateau, et on le répare, et patati et patata, et puis arrive le jour de l'inauguration. Il le raconte dans son livre. Et le jour de l'inauguration, il a une nouvelle vision. Il voit le bateau qui s'en va, et Jésus qui pleure sur le quai. Et là, il comprend, Seigneur, on t'a complètement oublié. On a foncé avec notre zèle. On a foncé avec nos moyens. Mais on t'a complètement oublié. On a fait ça peut-être pour nous finalement. Et pas comme tu le voulais. Il s'en repent. Et le Seigneur lui dit, ce premier bateau-là, tu vas le perdre. Effectivement, ils l'ont perdu. Le Seigneur leur a redonné un autre. Et là, ils ont tout à fait agi différemment. Jour après jour, ils priaient. Ils comptaient sur le Seigneur pour construire ce bateau pour tout ça. Ils ont mis vraiment Jésus au centre. Et le bateau est parti. Maintenant, j'ai une flottille. Est-ce qu'on s'embarque avec Jésus ? Ou uniquement avec notre bonne volonté, notre zèle, mais sans lui ? Notre enthousiasme, sans lui. Avec qui montons-nous ? Vous voyez, les 12, tout de suite, il leur dit ça, ils l'emmènent, ils prennent Jésus. C'est pas fou, hein ? Ils prennent Jésus. Alors, c'était mon deuxième point. Avec qui entrons-nous ? Avec quoi ? Vous avez le pardon originel ? Avec qui entrons-nous ? Jésus, maintenant, pourquoi y entrons-nous sur ce bateau ? Alors là, c'est extraordinaire. Parce que Jésus sait pourquoi il veut nous faire entrer sur ce bateau, il y a deux raisons principales. Tout d'abord, on voit que dans ce récit, il y a un événement qui arrive, et au cours de cet événement, qu'il n'avait pas prévu, c'est une tempête. Ils disent un grand tourbillon, hein, une tempête. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette tempête ? L'identité de Jésus va leur être révélée. Comme jamais encore ils ne l'avaient vu. Quand nous nous embarquons sur l'ordre de Jésus, c'est toujours l'occasion d'une nouvelle révélation de qui il est. Et ça, nous en avons besoin, avant que le monde n'en ait besoin. Comment puis-je témoigner de Jésus si je ne le connais pas ? Comment puis-je dire à quiconque, tu sais, quelle que soit ta situation, tu peux être sauvé, si je ne l'ai pas expérimenté moi-même le salut ? Si je n'ai pas été sauvé de la mort, comment puis-je dire que Jésus nous sauve de la mort ? Et souvent, une nouvelle saison, c'est aussi l'occasion de passer par des tempêtes, où Jésus nous révèle qui il est d'une manière souveraine et souvent nouvelle, ou alors tellement vrai, tellement incarné, que jamais plus on n'en doutera. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, ils se sont dit, Pierre a pu se dire un jour, c'est vrai Seigneur, je me souviens sur le bateau. T'étais là, on t'a réveillé, et tu as dit, ouh, et tout s'est calmé. Je me souviens, je l'ai vécu. C'est vrai. Une nouvelle révélation de Jésus. Qui est Jésus ? Et le récit de Marc nous dit, ils étaient stupéfaits parce qu'ils avaient vu. Même le vent et la mer lui obéissent. Ça, ils ne l'avaient pas encore vu. Et pourtant, je vous ai dit qu'avant, ils en avaient vu. Hein. Mais ça, non. La souveraineté de Jésus sur les éléments. La souveraineté de Jésus sur toutes les tempêtes de ta vie. La souveraineté de Jésus sur tout ce qui pourrait faire chavirer ta vie. À condition que tu le réveilles. Et que tu l'aies pris avec toi. Vous comprenez, frères et sœurs ? Puis deuxième révélation dont on a besoin. Alors celle-là est un peu étonnante. C'est que Jésus, pourquoi est-ce qu'il nous fait entrer ? Parce qu'il y a un but. Le but, c'est d'aller de l'autre bord. Alors l'autre bord, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas faire une étude biblique. Mais vous connaissez l'autre bord, c'est quoi ? Ils quittent le territoire d'Israël. Ils arrivent sur un territoire païen, où ils n'ont pas le droit d'aller. C'est des juifs, hein. Souvenez-nous de Pierre avec Corneille, hein. Pierre rentrait chez un Romain. Non, c'est un païen, j'ai pas le droit. Impureté. Impureté rituelle, impureté. Je ne peux pas aller chez les païens. Ils sont pas juifs. Où est-ce que Jésus les emmène? Chez les Géraséniens. Où il y a un homme possédé, captif du diable, qui vit dans des cimetières. Jésus les emmène dans le lieu le plus impur, sur le territoire le plus impur. Là où vraiment, jamais ils n'auraient mis le cap. Et pourquoi il les emmène là ? Pour montrer l'étendue et la puissance et l'efficacité du royaume de Dieu. L'Église va être emmenée sur des terrains que elle-même, elle n'aurait jamais imaginé conquérir, qu'elle-même, elle n'aurait jamais imaginé fouler. Là où règne, a priori, à nos yeux, la plus impure des impuretés. Regardez le monde aujourd'hui, frères et sœurs. Qu'est-ce qui règne ? Dans quelle prison sont nos contemporains ? Dans quelle prison sommes-nous aussi ? Encore. Et Jésus veut les emmener jusque-là, et c'est pour ça qu'ils ont besoin à la fois de n'emporter que peu de choses, mais l'essentiel, qu'ils ont besoin de traverser une tempête pour comprendre la souveraineté de Jésus, alors il peut les emmener sur l'autre bord. Et savez-vous ce qui se passe dans le récit ? Dès que la tempête est apaisée, tout de suite, ils sont sur l'autre bord. Ils n'ont même plus rien à franchir. Comme si finalement, la tempête apaisée, la distance qui reste à franchir, elle est faite. Ils sont sur l'autre bord, et là, Jésus, il va délivrer ce Gérasénien qui va se précipiter à ses pieds. Vous savez, c'est l'épisode avec les porcs, etc., que vous connaissez ? Incroyable. Et là, les disciples se disent, mince, même les démons lui obéissent, mais on n'est pas en Israël, il agit aussi, qu'est-ce qui se passe ? Quelle perspective Jésus leur offre ? Quelle démonstration de sa souveraineté et de son propre ministère ? quel appel pour eux. Et la leçon de Marc, c'est que le chemin pour aller sur l'autre bord est aussi important que le but. Tu ne peux pas atteindre le but que Dieu veut dans ta vie sans passer par le chemin qui y mène, parce que le chemin est une école de formation pour atteindre ce but. Petit évangile, Marc. Profondeur insoupçonnée. Alors, frères et sœurs, en quoi y a-t-il pour nous, dans tout cela, un encouragement? Il y a un profond encouragement. Je suis convaincu que nous sommes dans le temps d'une nouvelle saison, pour l'Église et pour chacune de nos communautés. Je suis convaincu qu'il va falloir voyager léger, mais avec l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. Prenons-le avec nous. L'essentiel, c'est la conviction que ce que nous avons comme ministère, c'est d'être apôtres envoyés de réconciliation. Et que nous sommes témoins de l'extraordinaire souveraineté de Jésus sur toute situation qui nous paraîtrait impossible. Et si nous sommes conscients de ça, Jésus va nous amener des gens que jamais nous irons nous-mêmes été cherchés. Jésus va pouvoir ramener dans l'Église ceux et celles qui n'en peuvent plus et qui ne savent plus où aller. Mais croyez-moi, qui ne correspondront pas du tout à nos structures. Parce que ce n'est pas leur problème. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, je dirais, c'est facile d'aller appeler quelqu'un qui a un bac plus 4, qui a, vous voyez, qui a un passé chrétien, à revenir dans l'Église. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me mets au défi d'aller appeler un jeune de banlieue. Est-ce que mon église est adaptée? Est-ce que mes structures sont adaptées? Pas du tout. De quoi il a soif quand je parle avec lui? Comment se fait-il qu'il y a des moines qui s'installent actuellement en dehors de leur monastère, dans des appartements à Marseille, dans les cités? Parce qu'ils ont bien compris que c'est là que l'église doit être. Et ça touche les gens. Mais ils ne les appellent pas à la messe, ils ne les appellent pas à l'Eucharistie, ils ne appellent pas au culte, ils témoignent. Parce qu'ils prient avec eux, ils prient pour eux, ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quel temps sommes-nous? Porteurs de qui? Porteurs de quoi? Avec qui? Avec quoi? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'était une bénédiction pour les disciples. C'est une formation incroyable pour eux, parce qu'après, ils sont allés jusqu'à la croix, et puis après, ils sont allés encore plus loin, et puis ils sont encore allés plus loin. En quel temps sommes-nous? Il y a là un encouragement et une exhortation. Ne partons pas sans Jésus, ne partons pas sans ce dépôt qu'il nous a donné, et laissons-nous interpeller par sa souveraineté, laissons-nous interpeller par ce qu'il veut nous donner, acceptons le chemin qui mène sur l'autre bord, acceptons d'y passer, et nous arriverons sur l'autre bord, où nous serons les témoins d'une manière tout à fait nouvelle, peut-être qu'il va nous dépasser de ce que Jésus attend de nous. Et frères et sœurs, c'est un encouragement, parce que si ce message Jésus le donne à l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'il est le temps qu'il le donne. Je crois que c'est vraiment le temps où Dieu veut faire passer toute son Église sur cet autre bord, parce qu'il y a un monde à gagner. Il y a un monde qui vit vraiment sans lui. Et vous savez que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et vous voyez, personnellement, je ne sais même pas ce qui m'attend sur l'autre bord. Mais je sais que je vais y être avec Jean-Luc, je l'espère de tout mon cœur, avec vous. Mais j'ai envie d'y être. Et j'ai envie de laisser ce qui n'est pas important, pour ne prendre que l'essentiel. Et je ne veux même pas juger moi-même de ce qui est important ou essentiel, parce que je suis capable de mal faire. Mais Seigneur, mets dans mon cœur ce qui est vraiment essentiel à prendre, pour que le bateau puisse avancer. Et si une tempête nous guette, si tu es là, alors on ne s'affolera pas, tu nous révéleras qui tu es, et on passera de l'autre bord. Et je terminerai par le fait que dans la tempête, c'est un peu particulier dans la Bible, parce que, voyez-vous, il y a un texte dans Job. Vous connaissez le livre de Job. Quand et comment Dieu se révèle à Job au milieu d'une tempête. Et Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les tempêtes sont des temps particuliers, d'épreuves, hein, où Dieu a une révélation particulière de qui il est. Sachons aussi les saisir, ensemble et personnellement, en nous aidant les uns les autres, sans nous affoler, à la traversée en nous centrant sur Jésus. Et comme ça, on ira aussi de l'autre bord. Amen.
On se lève. Merci Seigneur pour la parole tellement précise, tellement concise qu'on vient d'entendre. Oh Seigneur, merci Seigneur. Voilà, on veut aller dans la barque avec toi. On veut aller de l'autre bord avec toi. Seigneur, on veut pas aller sans toi, on veut pas aller faire les choses sans toi, on veut pas prendre d'initiative sans toi. Seigneur, j'avais envie, en entendant Étienne, de consacrer à nouveau cette salle des roseaux. Seigneur, nous ne voulons pas l'utiliser pour nous-mêmes ou pour nos projets personnels, mais vraiment, nous voulons que tu sois au centre pour l'utilisation de cette salle. Ouais, j'ai envie de le dire, on veut que tu sois au centre. On veut que tu sois au centre. Bon, peut-être qu'on l'a acheté au début, peut-être que tu n'étais pas totalement au centre. On veut vraiment que tu sois au centre. Est-ce qu'on peut peut-être, chacun, chacune, peut-être Dieu montre un domaine où Jésus n'est pas au centre. Voilà. Est-ce qu'on peut dire oui, allez. Allez, Jésus, sois au centre. Jésus, sois au centre. Sois au centre de toutes mes initiatives, de mes projets. Et que tu sois révélé. Révélé, vraiment. Révélé. Révélé. Là où je vais. Alléluia. Alléluia. On a dit tout à l'heure qu'il soit fait que nous puissions faire ce qui est agréable au Seigneur. Eh bien, si ça lui est agréable d'aller jusqu'au plus profond de l'impureté, eh bien, Seigneur, que ce qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit toi ainsi. C'est pas nous qui décidons des gens avec qui nous allons marcher. Merci Seigneur. Amen.